Seguiranno. Questo inferno. Se tu è lì, mi sono trovato lì. Vi si vi n'entendez plus à un moment donné, vous n'avez qu'à lever la main. Je comprendrai. Nous avons donc commencé par voir la diversité des connaissances humaines, en vous rappelant que nous avions une méthode critique, c'est-à-dire une méthode de réduction pour chercher le point de vue fondamental de la connaissance humaine. D'abord constater la diversité, puis essayer de découvrir dans cette diversité de connaissances ce qui caractérise la connaissance intellectuelle. C'est l'universalité et la signification et la conscience. J'ai conscience de mes diverses connaissances grâce à la connaissance intellectuelle. Très difficile de savoir la conscience du champ. Il sent. Mais il n'a pas de connaissance intellectuelle. Il ne parle pas. Il crie. Il gémit. Alors, nous avons conscience de sentir. Nous avons conscience de nos états affectifs. Est-ce que ça relève de l'estimative ou de l'intelligence? C'est un problème très difficile. Il est évident que quand on n'a plus conscience au point de vue de l'intelligence, la conscience est toute différente de la conscience des rêves, par exemple. Vous avez une conscience quand vous rêvez. Quand vous êtes dans un cauchemar, la conscience est très particulière, puis subitement vous vous réveillez, vous dites heureusement que c'est un cauchemar. Ou bien quelquefois c'est désastreux, c'est un rêve, parce que c'était tellement beau, tellement magnifique. Alors il y a une conscience de l'imagination, et une conscience qui demeure dans une certaine immanence, puisque je ne discerne pas à ce moment-là ce qui est imaginatif et ce qui est réel. La conscience au sens fort vient de l'intelligence, qui, elle, peut discerner ce qui est la connaissance et la réalité que je connais. C'est un très gros problème, celui-là. Si on a le temps, on y reviendra au terme. Dans la connaissance intellectuelle, nous avions rappelé très rapidement la dernière fois qu'il y a diverses étapes. Je voudrais avec vous, aujourd'hui, essayer de comprendre quelque chose que je crois très important dans une connaissance réaliste. C'est une distinction qui vient d'Aristote, que saint Thomas a repris, et je crois que nous devons garder, mais qui n'existe plus de la même manière chez Descartes, chez Leibniz, chez Hegel. Alors, ce serait très intéressant de savoir si la distinction que nous allons essayer de comprendre est caractéristique de la connaissance réaliste. Et par le fait même, est-ce que c'est cette distinction qui me permet d'entrer dans ce que nous pouvons appeler une connaissance analogique, distincte de la connaissance dialectique? Je ne sais pas si on arrivera aujourd'hui à bien faire cette distinction. Mais je pose tout de suite le problème. Je crois qu'il n'y a que deux grandes manières de philosopher. Ou une connaissance dialectique à la manière de Hegel, à la manière aussi de Platon. Pour Platon, la dialectique prend une place très importante, mais la dialectique hegélienne et la dialectique platonicienne ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce serait très intéressant de bien les comparer. Et puis, il y a une connaissance particulière que Aristote a mis en pleine lumière, la connaissance dite analogique, l'analogia, et que saint Thomas a repris. Alors je me pose toujours la question, Aristote ne le dit pas, saint Thomas non plus, je me pose toujours la question, et je la pose avec vous, puisqu'il s'agit de chercher ensemble. Sur quoi se fonde une connaissance dite analogique, et sur quoi se fonde une connaissance dialectique? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, connaissance analogique et dialectique? La connaissance dialectique est une connaissance qui progresse dans l'immanence. Vous connaissez tous le schéma de la connaissance dialectique hegélienne, l'opposition entre la thèse et l'antithèse, et la synthèse. On parle d'une division pour essayer d'intégrer progressivement, à partir de l'opposition, découvrir la synthèse. Tandis que dans la connaissance analogique, on saisit des niveaux différents. La pensée dialectique a aussi des niveaux différents, mais elle progresse selon une continuité dans l'immanence de la connaissance. Tandis que la connaissance analogique essaie de saisir les niveaux différents par où elle atteint le réel. Et elle saisit la diversité de nos connaissances. Et à l'intérieur de cette diversité, elle maintient des rapports, un quelque chose de commun. Vous voyez, schématiquement, on pourrait dire que c'est très semblable. Des deux côtés, vous avez une division et vous avez quelque chose qui dépasse la division. Donc, on est toujours en présence de trois termes. Thèse, antithèse, synthèse, dans cette révision. Dans la connaissance analogique, il y a une opposition, prenez l'exemple de la connaissance analogique, le cheval, ce cheval est bon, l'homme est bon. Quand je dis la bonté du cheval et la bonté de l'homme, je dis quelque chose de tout à fait différent. Aristote dira allô, allô, c'est facile à retenir. Autre, autre, puisque allô ça veut dire autre en grec. Autre, autre, quand vous téléphonez, vous dites allô, vous appelez l'autre. Donc c'est autre, autre. Et vous découvrez le quelque chose de commun à l'autre et à l'autre. Il y a quelque chose de commun dans la bonté du cheval et la bonté de l'homme. Au-delà de la diversité, il y a quelque chose de commun. Ce quelque chose de commun n'est pas la synthèse des oppositions. Il est ce qui maintient quelque chose de commun dans la diversité. Vous voyez que c'est très différent. D'un côté, on additionne, de l'autre côté, on saisit quelque chose au-delà de la diversité, mais qui ne fait pas la synthèse de la diversité. Il n'y a pas de synthèse de la diversité de la bonté de l'homme et de la bonté du cheval. C'est autre, autre, et quelque chose de commun. Je dis l'homme est bon, Dieu est bon. La bonté de l'homme et la bonté de Dieu sont totalement différentes. Je ne fais pas la synthèse de la bonté de Dieu et de la bonté de l'homme. C'est une démarche tout autre. Mais ce qui est très curieux, c'est que, de fait, vous retrouvez toujours des deux côtés la division. La division, c'est quelque chose de très très fondamental dans l'intelligence. Mais la division peut conduire vers l'addition. Il faut diviser pour additionner. Parce que vous n'additionnez que quand vous êtes en face de parties différentes. Alors vous additionnez. La synthèse, c'est une addition qui présuppose la division. Tandis que dans l'analogie, vous constatez la diversité et vous essayez de saisir ce qu'il y a de commun dans cette diversité. Ce quelque chose de commun qui vous donnera une intelligence nouvelle des deux membres opposés. Quand je regarde la bonté du cheval et la bonté de l'homme, je comprends mieux ce qu'est la bonté si je ne reste pas fixé sur la bonté du cheval et que j'essaie de saisir aussi la bonté de l'homme. Et plus je multiplie la diversité des bontés, la bonté de Dieu, la bonté de la fourmi, la bonté de l'araignée, plus je multiplie les expériences de la bonté de ces divers animaux, ou de l'homme, ou de Dieu, j'arrive à découvrir de plus en plus ce quelque chose de commun qui unifie cette diversité sans la confondre. Donc il n'y a pas de synthèse. Et je saisis quelque chose de fondamental. Je crois qu'on peut dire, il faut faire un petit peu attention devant ces affirmations un peu brutales, je crois qu'on peut dire que la connaissance analogique est une connaissance qualitative et la connaissance dialectique est une connaissance par mode d'addition beaucoup plus quantitative. Je sais bien, si je dis ça, un hegelien sera furieux. Mais je crois que c'est vrai, malgré sa fureur. On essaiera de comprendre, parce que c'est très important de saisir comment progresse la connaissance humaine et de voir tout de suite la différence entre une démarche dialectique et une démarche analogique. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder la connaissance intellectuelle qui implique donc la conscience, l'universalité et la signification. Vos connaissances intellectuelles sont diverses. Le langage provient de cette connaissance intellectuelle. Or, dans le langage, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des raisonnements. Le raisonnement est une connaissance complexe. Pas simple. Tout raisonnement présuppose des propositions. Prenez le raisonnement le plus classique et le plus simple. Tout homme est mortel, or Pierre est un homme, donc il est mortel. C'est un raisonnement, ça. Il y aurait le raisonnement de celui qui est un peu alcoolique. Il m'est interdit de boire du vin. C'est une proposition qui vient de l'autorité. Il m'est interdit de boire du vin. Or, cette bouteille, je ne l'ai pas encore vue, de bouteille aussi admirable. Donc, je bois. Vous voyez, c'est un raisonnement qui n'est pas un raisonnement. C'est la passion qui fait dépasser le raisonnement. Selon le raisonnement, je suis malade, il m'est interdit de prendre de l'alcool, donc j'ai quatre bouteilles. C'est une tentation. Tandis que celui qui est passionné pour le vin, je sais très bien, le médecin m'interdit de prendre du vin. Ce n'est pas bon pour moi du tout prendre du vin. Tout ça, c'est du raisonnement. Cette bouteille, j'en ai jamais vu d'aussi belle. Oh, ce vin, il me rappelle ce que j'ai pris il y a si longtemps. J'en ai jamais pris depuis. Vite, je me sers. J'en prends. Parce que je suis attiré par ce vin. C'est un raisonnement à quatre pieds. Maintenant, il est alcoolique, il est un peu saoul, alors il faut une canne pour marcher. Alors il en faut même deux. Alors, il y a quatre pieds. Donc, le raisonnement est complexe. Qu'il soit juste ou qu'il soit faux, il est complexe. On reverra ça la fois prochaine, avec la logique. Le raisonnement part de proposition. La proposition, tout homme est mortel. Toute proposition relève d'un jugement. C'est un jugement quand je dis l'homme est mortel. Je me pose la question maintenant, est-ce que le jugement, c'est l'opération première? Alors ici, n'oublions pas ce que je vous ai dit, que la méthode critique est une méthode qui veut rechercher toujours ce qu'il y a de plus fondamental. Méthode régressive, méthode archéologique. Un archéologue cherche toujours ce qu'il y a de plus fondamental. Tant qu'il n'a pas atteint ce qu'il y a de plus fondamental, il continue sa fouille. Et puis quand il a atteint ce qu'il y a de plus fondamental, il s'arrête. Il ne doit pas aller plus loin, parce que s'il va plus loin, il ne trouvera plus rien du tout qui l'intéresse. Donc, mais il recherche jusqu'à ce moment-là. Bien, la méthode critique est une méthode archéologique. Je cherche ce qu'il y a de plus fondamental dans ma vie intellectuelle. Est-ce que c'est le jugement? Je dis non, ce n'est pas le jugement. Pourquoi ce n'est pas le jugement? Parce que beaucoup de philosophes s'arrêteraient à cela. Ils diraient, c'est l'intuition. Mais l'intuition, c'est un jugement. Quand vous avez une intuition, ça peut arriver. L'intuition porte sur un rapport. Et ce rapport, vous le saisissez intuitivement, sans raisonnement. L'intuition s'oppose au raisonnement. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment, puis il y a des gens qui saisissent tout de suite, saisissent. Ils ont tout de suite saisi le rapport. Puis si on leur dit, est-ce que c'est vrai? J'en ai l'intuition. Alors, pour voir si c'est vrai, on devra vérifier l'intuition. Parce que toutes les intuitions ne sont pas vraies. Il y a des intuitions qui peuvent être fausses. Mais l'intuition est donnée dans un jugement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà du jugement? Beaucoup de philosophes demeurent sur l'intuition. Bergson. Qu'est-ce qui est premier? C'est l'intuition. Et Bergson essaie de creuser, voir quelles sont les intuitions dominantes. Et toute sa philosophie repose sur quelques intuitions dominantes. Et Bergson dira même, quand on étudie un système philosophique, il faut toujours saisir l'intuition dominante. Il a raison. Au point de vue descriptif, l'intuition m'apparaît comme la chose principale. La chose la plus simple. C'est simple, l'intuition. C'est tellement simple qu'on ne peut pas la communiquer à son voisin. Quand vous avez une intuition, c'est très très difficile. C'est presque incommunicable. Alors, est-ce que je dois m'arrêter au jugement et au jugement intuitif? En disant, rien n'est plus simple que l'intuition. Rien n'est plus simple que cela. Bien, je dis non. Et en disant ça, je sais très bien que des quantités de philosophes ne comprendront plus. Pourquoi je dis non? C'est que je dis que le jugement apparaît tout de suite comme complexe. Il apparaît complexe dans le langage. Pierre est intelligent. Tout homme est mortel. Tout ça, c'est complexe. Il y a un nom, puis il y a des attributs. Il y a un nom et un verbe. Dans une intuition, c'est encore quelque chose qui s'exprime dans une complexité. Ça apparaît simple parce que je le saisis directement sans passer par un raisonnement. Et quand vous voulez le communiquer à un autre, toutes vos intuitions apparaissent complexes. J'ai l'évidence de cela. Oui, vous avez l'évidence, mais c'est parce que tout simplement l'attribut par rapport au sujet semble lié d'une façon immédiate. C'est un signe que le jugement n'est pas premier, puisque dans le langage, il apparaît toujours dans une complexité. Quand je dis chat, quand je dis chien, quand je dis homme, je n'ai pas de jugement. Je suis au-delà du jugement. Si je suis au-delà du jugement, il y a donc quelque chose qui est au-delà du jugement. Je dis le jugement parfait et vrai. Tandis que quand je dis chat, c'est ni vrai ni faux. Je ne dis pas ce chat existe alors qu'il est mort. Ça, c'est un jugement. Le jugement seul est vrai. Alors que quand je suis en face de dénoncer un simple terme, chat, homme, blanc, ni vrai ni faux. C'est très curieux ça, ni vrai ni faux. Il y a donc quelque chose dans la vie de l'intelligence qui va au-delà de la vérité. Quelque chose de plus fondamental que la vérité. Ça, c'est intéressant quand même. Donc, le langage m'indique que le jugement n'est pas premier. Puisque quand j'ai dit « Pierre est intelligent », il y a « Pierre et intelligent ». Et puis, il y a le verbe. Donc, c'est complexe. Or, ce qui est complexe n'est jamais premier. Platon disait, la dyade n'est pas première. Or, je cherche ce qui est premier, ce qui est fondamental, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Je creuse un tout petit peu le jugement. Mon jugement à moi, il est ou affirmatif ou négatif. Je peux dire ceci est, ceci n'est pas. C'est très curieux. La structure du jugement implique tout de suite affirmation ou négation. Et ça, je ne peux pas le nier. Combien de fois par jour vous niez? Combien de fois par jour vous affirmez? Donc vous êtes bien obligé de reconnaître que le jugement a cette structure particulière d'affirmer ou de nier. Donc, il est double. Et c'est quand même très important de ne pas confondre l'affirmation et la négation. Le jour où vous confondez l'affirmation et la négation, on dit quelque chose qui ne marche plus. Je vous affirme que ceci est. Puis deux minutes après, je vous affirme que ceci n'est pas. Quelqu'un qui vous dit ça très sérieusement, qu'est-ce que vous dites? Hein? Ça ne va plus très bien. C'est ce que on a dit d'une façon générale, qu'il y a un axiome fondamental qui commande toute l'hygiène de notre pensée intellectuelle. On ne peut pas affirmer et nier en même temps, sous le même rapport, que ceci est, que ceci n'est pas. C'est l'axiome de contradiction ou de non-contradiction. Je sais très bien, et ça c'est un très gros problème, il y a un petit livre qui est très intéressant de Carouge là-dessus, quand il montre cette pensée actuelle qui voudrait être au-delà de la contradiction. Alors il appelle ça la mystique intellectuelle de notre monde d'aujourd'hui. Et il montre que c'est vrai, il y a tout un effort très extraordinaire de la pensée contemporaine. Depuis Hegel, qui veut être au-delà de la non-contradiction ou de la contradiction. Dépasser l'affirmation et la négation pour en faire la synthèse. Oh, je suis peut-être en face du secret de la dialectique hegelienne. Le secret de la dialectique hegelienne, c'est bien ça. Ceci est, ceci n'est pas. Je ne peux pas aller plus loin dans l'ordre de l'opposition, de l'affirmation à l'égard de l'être et de la négation à l'égard de l'être, la synthèse, c'est le mouvement. L'être et le non-être donnent le mouvement. Voyez le dépassement de la contradiction. Et je crois ça très important pour comprendre beaucoup de choses de la pensée contemporaine, du moins de certaines pensées contemporaines. Soyons pas affirmatifs, puisque nous sommes contemporains. Et j'essaie de montrer qu'il ne faut pas et qu'on ne peut pas dépasser cela. C'est l'action fondamentale de la vie de l'intelligence. Pour Aristote, et Aristote dit, celui qui nie cet axiome de la contradiction, on ne peut plus dialoguer avec lui. On ne peut plus. Donc, il n'y a plus possibilité d'un dialogue, d'un discours commun. Puisque ce que vous dites, vous pouvez immédiatement après le nier. Si ce que vous dites, vous pouvez immédiatement après le nier, alors, qu'est-ce que vous allez dire? Plus rien. Essayez, hein. C'est un jeu dangereux, mais essayez, quand vous êtes en face de quelqu'un, de jouer l'imbécile. Qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Tu me dis ça, eh bien moi je dis le contraire. Et alors l'autre commence. Eh bien, moi, je dis maintenant le contraire de ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il vous dira? Faites pas ça le jour de l'examen. Qu'est-ce qu'il vous dira? Mais vous êtes complètement fou. Pas la peine de parler avec vous. Je peux rien dire. Tout ce que vous dites, vous le niez après. La distinction entre l'affirmation et la négation est quelque chose de très, très fondamental dans notre vie intellectuelle. Et le respect de l'affirmation et de la négation qui vous dira, mais vous êtes complètement fou, pas la peine de parler avec vous, je peux rien dire. Tout ce que vous dites, vous le niez après. La distinction entre l'affirmation et la négation est quelque chose de très, très fondamental dans notre vie intellectuelle. Et le respect de l'affirmation et de la négation par rapport à l'être ou par rapport au non-être. Puisque quand vous dites ceci est, ceci n'est pas, c'est très difficile d'aller plus loin. D'un côté, vous affirmez l'existence de la chose, de l'autre côté, vous niez l'existence. Et si vous dites j'en fais la synthèse, pouvez-vous faire la synthèse de l'affirmation et de la négation? Si vous êtes égalien, oui. Si vous êtes réaliste, non. Et c'est très intéressant de voir que c'est là où je vois la différence entre une pensée réaliste et une pensée hegelienne. Vous allez tout de suite comprendre, moi, j'espère. Parce que c'est très important. Il y a une bifurcation, vous voyez. Et c'est là le nœud pour Hegel. L'affirmation et la négation sont pris du côté de la vitalité de l'intelligence. Quand j'affirme, je pose une opération intellectuelle. Je dis ceci est. C'est une opération intellectuelle. Quand je dis ceci n'est pas, c'est une autre opération intellectuelle. Ce sont deux opérations intellectuelles. Si ces deux opérations intellectuelles, je peux donc en faire la synthèse. C'est deux positifs. Et la synthèse consiste à dire qu'il y a le mouvement. Je passe de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui va unir l'affirmation et la négation? Le mouvement. Et le mouvement. mouvement apparaît. Vous voyez la naissance du mouvement d'intelligence. C'est très beau, c'est génial. Hein? C'est génial d'avoir découvert ça. C'est terrible aussi. Et c'est génial, ça il faut le reconnaître. Hein? Hegel est quand même un génie. Un génie très dangereux. Très très dangereux, parce que quand vous mettez le petit doigt dedans, tout y passe. Dans la position d'Aristote, j'ai dit ça, c'est parce que Hegel lui-même dit qu'on ne peut se former à la philosophie qu'avec Aristote. Il le dit, donc je peux très bien faire le parallélisme entre Aristote et Hegel. Je dirais, Hegel le demande. Si on est un véritable hegelien, on doit toujours opposer les deux. Puisque Hegel dit que seul Aristote forme, que Platon ne forme pas. Alors, pour Aristote, quand je dis ceci est, j'affirme une réalité qui est autre que moi. Quand je dis ceci n'est pas, je dis qu'il n'y a rien. Et je sais très bien que le contenu de cette négation, ceci n'est pas, c'est justement qu'il n'y a rien. La négation prise d'une façon absolue est uniquement un être de raison. Comme on dira, comme saint Thomas dira, c'est un être de raison. La négation prise de cette manière n'existe que dans mon intelligence. C'est mon intelligence qui dit ceci n'est pas. Mon intelligence a cette capacité très extraordinaire de pouvoir dire ceci n'est pas. Et donc elle construit à ce moment-là un être de raison. La négation. Et la négation à l'état pur. Ceci n'est pas. Donc, d'un côté j'affirme qu'il existe quelque chose, de l'autre côté je le nie. Je ne peux pas additionner l'être et le néant. Le néant, ça ne s'additionne pas. Donc il n'y a pas d'addition. La négation à l'état pur n'ajoute rien. Et c'est vrai, la négation à l'état pur n'ajoute rien. Donc, vous revenez à l'affirmation. Et vous voyez que la négation, c'est l'intelligence qui le fait. Pourquoi l'intelligence a-t-elle cette capacité de nier ? C'est invraisemblable que je suis capable de nier. C'est quand même très intéressant, Marceau. La naissance de la négation. Je devrais simplement affirmer, et puis quand il n'y a plus rien, lever les bras au ciel. C'est ce que fait un chien quand vous lui donnez à boire, quand vous lui donnez quelque chose à manger, il avale. Quand c'est terminé, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Il ne dit pas, il n'y a plus rien. Ça, c'est le gosse qui dit ça. C'est merveilleux quand le gosse dit, maman, il n'y a plus rien. Un animal ne dit pas ça. Maman, il n'y a plus rien. C'est la négation de l'intelligence qui est capable d'affirmer qu'il n'y a plus rien. D'affirmer qu'elle vide, qu'elle néant. Je suis capable de créer au-dedans de moi un espace vide, un néant. C'est très extraordinaire, ça. L'intelligence est capable de ça. Voilà ce qu'elle est capable de créer, vous voyez. Notre pauvre petite intelligence, elle peut créer un néant. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Je vous affirme, il n'y a rien. Mais ce néant ne s'additionne pas à l'être. Mais ce néant me manifeste que l'intelligence est en dépendance de la réalité. Ah, voilà. La négation montre que l'intelligence est faite pour affirmer quelque chose qu'elle saisit au-delà d'elle et qu'elle est capable de dire que cette réalité vers laquelle elle tend, elle n'est plus. Quand vous dites Socrate est assis, et Socrate se lève, vous dites Socrate n'est plus assis. C'est la négation. Et pourquoi dites-vous Socrate n'est plus assis? Parce que vous continuez de regarder Socrate. Votre négation montre que l'intelligence est en dépendance du réel. Et la négation vient manifester cette dépendance de l'intelligence à l'égard de la réalité. Mais si justement, je ne veux pas reconnaître cette dépendance de l'intelligence à l'égard du réel, qu'est-ce que je fais? Je considère que la négation, c'est une opération positive de la vitalité de l'intelligence. Et j'en fais l'addition avec, avec l'affirmation. Donc, il y a un fait très important, très très important, que mon jugement dans sa structure implique affirmation et négation. Mais ça vaut la peine de réfléchir longuement sur la négation. Et les mères de famille savent très bien, comme disent les psychologues d'aujourd'hui, qu'il y a chez les enfants la phase négative. C'est très curieux, tu vois ça. Quand ils sont tout petits, ils sont plus affirmatifs. Puis à un moment, ils sont négatifs. Ils rejettent. Ils ne peuvent pas s'approcher d'eux. Puis après, ça revient. Et c'est intéressant que ça a commencé par la phase positive. Et puis ensuite, il y a eu la phase négative. Alors, il y a là un problème que je ne vais pas traiter, sinon, dans le temps, on y reviendra. J'y touche parce qu'il est capital. Je vois que dans le jugement, dans la structure du jugement, il y a affirmation et négation. Qu'est-ce qui est premier? L'affirmation ou la négation? Selon les anciens, les Grecs, pas tous les Grecs, mais beaucoup de Grecs, l'affirmation est première. Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait particulier chez quelques modernes, c'est qu'ils disent que la négation est première. Sartre, la négation est antérieure. Sartre est particulièrement intéressant quand il parle de la négation. Il est beaucoup moins dans l'affirmation. Très curieux, ça. Il y a un parallélisme entre le primat de l'affirmation et l'aspect second de la négation par rapport à notre vie affective. L'amour et la haine. Ce parallélisme, Aristote le fait. Et je crois qu'il est très vrai. L'amour et la haine. Qu'est-ce qui est premier, l'amour ou la haine? Spontanément, moi, je dis que c'est l'amour. Et vous trouvez, chez quelques modernes, que la haine est première. Mallarmé. Et beaucoup de modernes disent la haine est première. Je m'intéresse toujours, je le fais moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais dans le temps je m'intéressais toujours à faire des petits cours de philosophie dans les classes terminales pour voir comment ça poussait. Et un beau jour, je dis ce problème, qu'est-ce qui est premier, l'amour ou la haine? D'habitude j'avais toujours la même réponse, spontanée, c'est l'amour. Puis un beau jour, pas très vieux. C'est quelqu'un qui m'a dit, avec force, une jeune fille de 16-17 ans, c'est la haine. Et on a discuté longuement là-dessus, parce que c'est très important, vous comprenez. Vous allez me dire, Au point de vue de l'intelligence, c'est pas très important. C'est très important. De mettre la négation avant l'affirmation. Ou de mettre la haine avant l'amour. Selon le langage, c'est pour ça que je dis spontanément, selon le langage, vous dites ceci est, ceci n'est pas. Et donc la négation implique une addition sur l'affirmation. Ce qui prouve bien que la négation est seconde. C'est un signe, pas plus, c'est un signe. Dans le langage affectif, ordinairement, la haine pousse à partir d'un amour déçu. C'est parce que vous avez aimé passionnément quelqu'un qui n'a pas répondu ou qui a trahi que la haine. Je crois que la haine pousse sur un amour déçu. La haine pousse sur un amour qu'on a refusé. Le refoulement dans l'ordre de l'amour fait naître à partir de là une haine. Je ne crois pas que la haine est première. La haine est toujours complexe. L'amour peut être simple. La négation est toujours complexe. L'affirmation est simple. Il y en a un très gros problème. J'irai jusqu'à dire, et quand je dis ça, croyez-le bien, j'ai beaucoup réfléchi, je crois que le primat de la négation sur l'affirmation est le signe de la modernité au plan de la pensée. Je crois que c'est ça qu'il y a de plus fondamental dans le grand tournant de la pensée. On construit une philosophie sur la négativité, le primat de la négation, d'où le primat de la haine. Une politique construite sur le primat de la haine. Vous voyez ce que ça fait ? Une politique construite sur l'opposition, le primat de la négation, de l'opposition. Voyez ce que ça fait. Ce n'est plus l'homme et le bien de l'homme qu'on cherche, c'est la destruction de l'autre. Alors vous êtes en face d'un primat négatif. Et c'est l'anarchie. C'est l'anarchie la plus complète. Vous voyez, là, il y a un problème très très important au point de vue critique. Pour moi, c'est le problème critique fondamental. D'essayer de comprendre la primauté de l'affirmation sur la négation. Parce que ça a de telles conséquences quand vous mettez la primauté de la négation sur l'affirmation que vous pouvez dire, c'est un des problèmes, dites un des problèmes qui sont absolument primordiaux pour comprendre ce que c'est que l'intelligence. Et pour comprendre ce que représente aussi l'affectivité. S'il y a dans la structure du jugement ces deux aspects, affirmation et négation, je peux donc dire tout de suite que le jugement n'est pas premier. Qu'il se dédouble, il se divise. Le jugement se divise lui-même en affirmation et négation. Donc il n'est pas premier. Qu'est-ce qu'il y a antérieur au jugement? Il y a justement certaines saisies de l'intelligence qu'on a appelées appréhension dans le langage de saint Thomas. Le langage d'Aristote est moins précis ici. Mais Aristote dit qu'il y a l'upsolipsis. Ce terme qui fait que l'intelligence est d'abord dans un état de réceptivité. L'upsolipsis, elle s'ouvre. C'est appréhender. L'intelligence est d'abord réceptive. Dans le jugement, l'intelligence n'est pas premièrement réceptive. Elle discerne. Or, discerner, ce n'est pas être réceptif. Juger, ce n'est pas être réceptif. Et donc, c'est très juste de dire qu'il y a une attitude intellectuelle antérieure au jugement, qui est cette attitude de réceptivité. Mais vous comprenez qu'en disant ça, j'accepte tout de suite que l'intelligence est d'abord tournée vers quelque chose qui est avant elle. On est réceptif qu'à l'égard de quelqu'un qui est avant vous. Quand on écoute, on est réceptif, du moins normalement. Quand on écoute, on est réceptif, on est dans l'attitude de celui qui reçoit. Celui qui écoute en disant tout de suite non, 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 il n'est pas réceptif. Avant de juger, avant de discerner si on est d'accord ou pas, mais essayez de comprendre, soyez réceptif, écoutez. L'attitude première de l'intelligence, c'est donc cette réceptivité à l'égard du réel. À l'égard du réel qui est antérieur à ma vie intellectuelle. Vous voyez que accepter la distinction d'un au-delà du jugement, accepter l'appréhension, c'est reconnaître tout de suite que mon intelligence est tournée vers quelque chose qui est antérieur. C'est reconnaître l'objectivité de la connaissance. C'est pour ça que c'est si important. Je ne peux pas justifier, comprendre l'objectivité de l'intelligence par le point de vue du jugement. Parce que le jugement implique un discernement. Et si le jugement implique un discernement, je suis obligé de dire que c'est l'intelligence qui discerne. Quand j'affirme, c'est mon intelligence qui affirme. Quand je nie, c'est mon intelligence qui nie. C'est mon intelligence. Je suis en face du « se movere », « se mouvoir ». C'est l'intelligence qui se meut. Elle se meut en affirmant, elle se meut en niant. Et d'une certaine manière, en niant, elle s'affirme, puisqu'elle est seule. Tandis que quand elle affirme, elle se lie à un autre. Mais c'est quand même des deux côtés, elle se meut. Vous voyez la manière dont Hegel traite la question « ceci est, ceci n'est pas ». La synthèse, le devenir. Ce n'est pas le dépassement de l'affirmation et de la négation pour découvrir quelque chose d'antérieur à l'affirmation ou la négation, c'est découvrir quelque chose de postérieur. Ce qui suit, ce qui est le fruit de l'affirmation et de la négation, ça vient après. Tandis qu'au contraire, si je suis objectif et que j'essaie de comprendre ce qu'est l'affirmation, ceci est. Ce qu'est la négation, ceci n'est pas. Je dis, il y a quelque chose d'antérieur à l'affirmation et à la négation. C'est cette saisie de l'intelligence. L'intelligence est capable de saisir, d'appréhender. Alors on va essayer de regarder qu'est-ce que c'est que cette opération qui appréhende, qui saisit. Quand vous dites « je pige », vous dites ça de temps en temps quand même. J'ai compris. J'ai compris. J'ai saisi. Il y a quelque chose à ce moment-là. Ce n'est pas une intuition. Je saisis une détermination. Je saisis quelque chose. en saisissant ce quelque chose, je le porte en moi. Voyez le signe dans le langage, hein? Je reviens toujours au langage, parce que le langage est un signe de notre vie intellectuelle, c'est une projection de notre vie intellectuelle, et donc c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est pas commode de réfléchir sur ce moment premier de la vie intellectuelle, par où je saisis, par où je suis dans une attitude de réceptivité, dans le langage. Vous avez justement ces termes simples, blanc, noir, pierre, homme, dites, c'est mieux, homme, animal, ce sont des termes simples, qui ont une signification très simple, indépendant du jugement. Le problème de la signification est donc antérieur au jugement. Ah, je commence alors à comprendre l'importance de cette manière de déterrer, hein, je dis bien cette manière de déterrer, archéologue, critique, je déterre quelque chose qui est antérieur au jugement, antérieur à l'affirmation et à la négation. Je détermine ce premier moment de la vie de l'intelligence qui appréhende. Et en appréhendant, elle signifie quelque chose. Blanc. Vous dites, ce mur est blanc. Oui, mais blanc, d'où ça vient? Vous dites, animal. Ça a une signification, animal. Vous dites, homme. C'est une signification. Dites rationnel, c'est une signification. Il y a des termes simples qui ont une signification par eux-mêmes, indépendamment de savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Attention, hein, là je touche un problème très très important. Toute la différence entre Descartes et Aristote. Et on touche des choses, des gares de triage ici. On voit tout de suite comment on s'oriente dans un sens, on s'oriente de l'autre, parce qu'on touche des fondements. Et dès qu'on touche le fondement, on touche quelque chose de capital. Je viens de dire, hein, les termes simples, anima, homme, ça a une signification. La signification de homme est indépendante de savoir si Pierre existe ou Pierre n'existe pas. Et quand je dis que la signification de homme est indépendante de l'existence, attention, Descartes dirait ça. Est-ce qu'Aristote dirait ça? Quand vous dites homme, est-ce que c'est indépendant de l'existence ou pas l'existence? Vous pouvez tout de suite répondre, si vous n'existiez pas, vous ne diriez pas homme. Donc, l'appréhension de homme présuppose que vous existez. Je dirais oui. C'est vrai. Et comment j'ai pu dire homme? Le petit gosse, il dit d'abord papa. Et il dit papa à tout le monde. Puis au bout d'un certain temps, il fait un discernement entre papa et les autres. Et on lui dit, oui, sont des hommes. C'est pas le chien. C'est pas la même chose. Il fait un discernement. Petit à petit, il arrive à concevoir homme. Concevoir la signification d'homme. Assez vite, les gosses saisissent la signification des choses. À partir de la réalité. Alors, vous voyez, quand je dis que la signification de homme est indépendante de l'existence, c'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai en ce sens que la signification de homme est au-delà de tout exister. Mais selon l'aspect génétique, je n'ai pas pu acquérir la signification de homme sans l'exister de tel ou tel homme. Donc, du côté génétique, l'affirmation de la signification de homme dépend de l'exister. Mais en soi, la signification de homme est au-delà de l'exister. Je suis donc en présence de cette opération tout à fait fondamentale, l'appréhension, la saisie, c'est là où apparaît pour la première fois la signification. Je vais m'arrêter 10 minutes de détente, parce que c'est assez difficile. Je vois que depuis 5 minutes, c'est plus dur. Et puis on reprendra après. Alors, si vous avez des questions, posez-les.
Réformer.